ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre ce jour.
Salutations, vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud 92.2 MHz, c'est la voix du MAG. Aujourd'hui, une émission avec Nico. Bonjour.
Salut.
Ça va ?
Ça va très bien, merci.
Oui, donc tu fais partie du collectif Secours Rouge et tu viens nous parler de la projection de Rien à déclarer sur les techniques utilisées par la police pendant un interrogatoire.
Tout à fait.
La projection de cette conférence filmée aura lieu au Chat Noir le vendredi 16 septembre à 19h.
Tout voilà, à fait.
Super, voilà. J'ai un peu fait le tour. Donc avant de commencer l'échange, est-ce que tu peux nous parler de Secours Rouge ?
Bien sûr. Alors le Secours Rouge, nous, on est la section du Secours Rouge Toulouse. Le Secours Rouge existe dans différents pays, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, par exemple, et l'Italie aussi. Et elle se donne comme but, c'est une organisation qui a eu plusieurs existences, on va dire, hein. ça a débuté dans les années 20, et depuis le début des années 2000, il y a eu une nouvelle vague de construction d'un Secours Rouge international, c'est-à-dire une organisation qui se donne comme but de développer la solidarité et de promouvoir la résistance à toutes les formes de répression de classe. Donc ça passe par, évidemment, le soutien aux prisonniers et prisonnières révolutionnaires, qu'ils soient anarchistes, communistes, antifascistes, mais aussi issus des différentes luttes. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a fait campagne pour la libération des prisonniers anarchistes en Grèce, par exemple, des prisonniers issus de la lutte armée des années 80 en Italie, parce que certains et certaines d'entre eux sont toujours en prison. Voilà, et on fait campagne par exemple aussi pour Georges Abdallah, qui est enfermé depuis plus de 38 ans dans les prisons françaises. Mais ça passe aussi par promouvoir les outils de résistance du mouvement révolutionnaire face à la répression. Du coup, ça peut passer par la promotion des outils de cryptage pour protéger nos communications. Ça passe aussi par la connaissance, l'analyse et la promotion de ces connaissances de la répression étatique, comme par exemple, dans notre cas, les techniques d'interrogatoire de la police.
Effectivement, connaissance et analyse, le texte explique et insiste sur le fait que rien à déclarer, ce sont les seuls mots que nous conseillons de dire à la police lors d'un interrogatoire. Comment la police envisage-t-elle les interrogatoires de son côté ? Comment les prépare-t-elle ? Ce film se veut un outil de plus pour les militants, militantes et les collectifs qui s'organisent et se préparent contre la répression. Donc pour cette émission, on va se concentrer uniquement sur ces techniques très élaborées dont le but est d'aboutir à l'aveu. Comme tu as expliqué un petit peu, c'est un champ d'études qui t'intéresse, mais pourquoi celui-ci précisément ?
Alors, tout d'abord, nous, on n'est pas des spécialistes de la question, hein. On n'est pas des sociologues de la police, etc. On est des militants et des militantes révolutionnaires qui pensons que si on ne s'intéresse pas à la répression, de toute façon, la répression, elle s'intéresse à nous, elle s'intéresse au mouvement révolutionnaire en général. Et du coup, il faut s'y intéresser. Voilà. Alors... on pense que le mot d'ordre de se taire face à la police, face à l'interrogatoire de la police, est assez connu dans nos milieux. Et on pense qu'on a raison de valoriser ce mot d'ordre parce que c'est la solution. Mais le documentaire qu'on propose essaye à son niveau d'analyser scientifiquement les méthodes d'interrogatoire pour démontrer en quoi ce mot d'ordre est juste. Voilà. Et de pas en faire une affaire de morale, parce que voilà, c'est pas, ça a rien à voir avec la morale, mais voilà, d'essayer de scientifiquement décortiquer les méthodes de la police pour prouver que on a tout à y gagner de se taire.
Effectivement, donc c'est très précis, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur les méthodes, leur école historique avec Rake, les méthodes de Jane, enfin c'est très très précis, très documenté, et vous expliquez en fait que tout est pensé du fond à la forme, que rien n'est laissé au hasard, qu'on utilise des mécanismes de suggestion, des outils basés sur la psychologie sociale qui décrivent et analysent les influences sur le comportement humain. Et comble de cynisme, ces méthodes sont également utilisées par le secteur du marketing et de la vente. Enfin, il y a une formule qui est terrible, c'est les techniques pour provoquer l'aveu sont les mêmes que pour provoquer l'achat. Voilà, tu peux développer un petit peu.
Alors voilà, on est parti du constat que dans notre milieu, dans le mouvement révolutionnaire, on se laisse trop avoir par le fait de dire voilà, la police est bête et méchante. Mmh. Alors effectivement, la police est bête et méchante, mais pourtant, elle utilise des méthodes scientifiques d'analyse du comportement, d'analyse du langage pour arriver à ses fins. Et ces fins, c'est quoi? C'est, en ce qui nous concerne en tout cas, c'est de nous coincer et d'arrêter toute velléité révolutionnaire. Donc, voilà, on s'est donné un peu cette tâche de décortiquer ces méthodes policières et dans le documentaire, les méthodes d'interrogatoire.
Parce qu'il y a l'idée de sous-estimer ou de surestimer, en fait... La police.
Voilà, il y a cette idée-là et qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de sous-estimer la police et d'aller à un interrogatoire où quand on se fait choper, qu'on se retrouve en garde à vue et qu'on se retrouve en interrogatoire, de se dire automatiquement qu'on serait plus malin et maligne que la police, qu'on pourra les avoir, voilà, en racontant des bobards, etc. Et il faut pas non plus la surestimer, parce que voilà, parfois on a cette tendance là à croire que notre ennemi est plus fort que ce qu'il est. Mais on est aussi parti du principe qu'on n'est pas tous et toutes égales face à la police et face à l'interrogatoire. Alors bien sûr, on pourrait dire, et ça apparaît pas dans le documentaire, mais on peut le dire, qu'on n'est pas tous et toutes égales parce que l'on soit homme ou femme, que l'on soit blanc ou non blanc, que l'on soit voilé ou pas voilé, on n'est pas, voilà, on n'est pas égaux face à la police, mais aussi... que l'on soit préparé aux méthodes policières ou pas, voilà, ça nous rend plus fort pour affronter ces méthodes-là.
Absolument, c'est vrai que le documentaire met en place le cadre. Donc c'est vrai que si tu arrives dans ce cadre avec déjà en toi quelques réflexes de résistance, peut-être que ce sera plus simple de supporter la pression.
Tout à fait, ouais. Tout à fait, et je pense que toute confrontation à la police, hein, que ce soit en manifestation, mais là dans le cas qui nous intéresse, dans l'interrogatoire, nous demande un peu de concentration et nous demande un peu de préparation. Et que l'on soit préparé aux méthodes policières, que l'on soit préparé à l'interrogatoire, ça nous rendra collectivement plus fort et plus forte face à la répression.
Le cadre de l'interrogatoire, le but ultime, c'est l'aveu. Et de faire passer l'aveu comme un facteur de soulagement.
Tout à fait. Et faut partir de ce principe-là. On ne sait pas, quand on est face aux interrogatoires, on ne sait pas ce que c'est la police. Donc, c'est la première inconnue que on doit se rappeler. Et si la police fait un interrogatoire, c'est qu'elle veut boucler son dossier rapidement, qu'elle veut le maximum d'informations et se taire face à la police. C'est déjà se protéger, mais c'est déjà enrayer un peu la machine policière et peut-être mieux se défendre face à la machine judiciaire qui souvent vient après la machine policière.
Mais ce que tu dis est vrai, c'est l'inconnu. Tu te confrontes à quelque chose que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Un fameux conseil unique qui est de se taire, c'est ni grave ni un drame. Pourtant, toi, de ton côté, tu le vis comme un moment hyper fort, unique, très grave et déstabilisant. Alors que face à toi, c'est plutôt classique. C'est la routine.
Tout à fait. Et même si les policiers en face de toi te disent le contraire, que si tu te tais, tu auras plus de problèmes. C'est que les coupables qui se taisent, etc. C'est le genre de truc qu'on peut entendre souvent dans le genre de cas d'interrogatoire. Tu auras tout à y gagner de te taire, pour ta propre protection, mais aussi pour celle des autres, ceux et celles qui ont bougé avec toi, tes camarades, etc.
C'est vrai qu'une nouvelle fois, on n'est pas dans un rapport moral, hein. On est vraiment sur du technique là en ce moment.
Oui, tout à fait.
L'idée, c'est donc de nous amener à parler pourquoi l'humain, en fait, cette matière complexe, a besoin de se soulager en parlant. Parce que malgré tout, les techniques utilisées vont s'appuyer sur ce besoin lié à plein de choses qu'on va développer. Mais pourquoi, en situation de difficulté ou sous pression, l'humaine a besoin de parler ?
Comme le rappelle le documentaire, on est un animal social et du coup, c'est vrai que se taire face à des personnes, c'est pas principalement notre premier réflexe, voilà. Et donc, on est là aussi pour essayer de développer des techniques pour se conditionner. Collectivement face à ces techniques policières, parce que la police va utiliser plein de méthodes pour te faire parler, et pas seulement sur l'affaire qui les intéresse.
Ouais, c'est ça qui est intéressant.
Mais voilà, d'une façon générale, parce que plus tu parleras, plus ça intéressera la police pour maintenant ou même pour plus tard.
C'est vrai que le fond, il est quasiment accessoire, sauf pour le dossier, mais la méthode utilisée va jouer sur le soulagement de la culpabilité, du poids culturel connotant le mensonge, peut-être aussi le côté judéo-chrétien, je sais pas, par exemple, qu'il faut dire la vérité, tu vois.
Ils peuvent aussi faire appel à ta situation familiale. On a vu des cas où les policiers rappelaient, tu as des enfants quand même, pense à tes enfants. Si tu parles pas, ils vont penser quoi? Ils peuvent aussi s'appuyer sur tes handicaps physiques ou psychologiques, parce que part du principe qu'ils ont un dossier. Ils ont un dossier sur toi, ils savent beaucoup de choses, tu ne sais pas ce qu'ils savent.
Et tu ne sais, en fait, c'est jamais, en fait. C'est toujours cette situation inconfortable de ne pas savoir.
Tout à fait, ouais. Voilà. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle il faut se taire, mais il faut se concentrer dans cette épreuve, parce que les questions que les policiers vont poser peuvent beaucoup t'intéresser, et peuvent intéresser aussi ton groupe, ton collectif qui est mis en cause. Et il faut aussi avoir ce réflexe de concentration pour mémoriser ces questions de façon précise, pour justement savoir que nous, on sache ce qu'ils ont dans leur dossier.
Je te propose d'écouter un titre de La Rumeur qui s'appelle « La meilleure des polices », puisque... Voilà, ils exposent aussi l'idée que la police est un peu partout et que effectivement, ça nous amène inconsciemment à révéler des choses ou à dire des choses, à se sentir en position d'infériorité en fait.
Tout à fait.
Face aux multiples formes de police, tellement on est soumis à beaucoup de forces qu'on peut considérer comme des forces de surveillance.
Tout à fait.
Pas l'uniforme. Double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage. Sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu pectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu pectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu pectes pour garder le goût, de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu payes. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés. C'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu pectes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ou de les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau.
Alors le cadre est fondamental. La première technique, c'est d'isoler les individus, les mettre dans un état de stress, d'incertitude, de questionnement. Il faut arriver à les fragiliser.
Tout à fait. Et puis la police, elle a dans son arsenal beaucoup de méthodes. Voilà. Rien que la garde à vue, c'est-à-dire te priver de liberté. Et voilà. Et on sait qu'aujourd'hui, elle peut te mettre en garde à vue 24 heures, 48 heures, que ça peut être renouvelable. Donc ça peut être déjà une des premières méthodes. C'est t'isoler, et t'enfermer pour te diminuer physiquement et psychologiquement pour la préparation de l'interrogatoire. Et après, elle peut user de différentes méthodes, c'est-à-dire rien que dans le choix du bureau dans lequel ils vont t'amener, donc ils vont préférer un bureau sans sans décoration, sans fenêtre souvent pour éviter de te déconcentrer. Parfois, ils vont même réfléchir à leur positionnement face à toi, au positionnement de ton avocat ou de ton avocate. Voilà, pour essayer de réfléchir l'espace et le moment pour tout faire, pour te mettre une pression psychologique pour le véritable but, te faire parler.
C'est vrai que c'est la technique du face-à-face, puisque toi, tu sors d'isolement, et le fait d'avoir quelqu'un en face de toi rompt un peu et crée un lien, même factice, mais qui sera plus propice aux confidences. Et tous les personnes extérieures à ce face-à-face, comme tu disais, sont soit de côté, soit de biais, mais il ne faut jamais rompre ce face-à-face qui est fondamental dans la stratégie et la tragédie.
Tout à fait, ouais. Pour voilà, te mettre en condition de faire des aveux. Alors parfois, ils vont te mettre bien, ils vont te proposer de fumer une cigarette, ils vont te proposer un verre d'eau, ils vont te proposer d'aller aux toilettes. Dans un cas contraire, ils vont pas te donner de verre d'eau, ils vont pas te donner la possibilité d'aller aux toilettes, ça s'est vu, etc. Pour plus te mettre la pression. Voilà, il y a différentes techniques qui sont utilisées, rien que dans ton conditionnement physique et psychologique.
On essaye de comprendre un petit peu qui tu es. On essaye d'avoir une image mentale et de toi et du militant, pour savoir sur quel point on va pouvoir jouer.
Appuyer, ouais.
Mais ça veut dire qu'on a imaginé des grands classements de la psychologie humaine.
Tout à fait, ouais. Et ils vont... alors, on ne dit pas que ça se passe dans tous les cas. Il peut y avoir des interrogatoires vite fait comme ça, où ils ne vont pas aller creuser, mais il peut y avoir des cas où les policiers vont demander aux autres policiers qui t'ont mis en garde à vue, qui t'ont gardé sur le banc avant l'interrogatoire, etc., de te regarder, d'analyser tes faits et gestes pour voir voilà, si t'as des gestes qui trahissent une certaine tension, une certaine angoisse, ou si... au contraire, t'es plus détendu. Et voilà, ils vont au maximum essayer d'analyser qui tu es. Et même dans les premières questions, qui peuvent ne rien avoir à faire avec le dossier en question, mais ils vont essayer de te cerner, te comprendre. Et on a souvent ce genre de récit de garder à vue ou d'interroger deux policiers qui vont se mettre un peu de ton côté. Oui, on comprend, t'as eu raison de manifester, Macron c'est un con, on est avec toi.
Ça joue sur l'empathie.
Voilà, ça joue sur beaucoup de choses psychologiques, voilà, pour te faire parler. Je pense que voilà, on serait mieux armé à s'y préparer et à penser cette période qui peut être difficile. Hein. On dit pas que c'est simple comme exercice, mais c'est une période à laquelle il faut se préparer. Et toute la période où t'es dans le commissariat. Voilà, c'est pas parce que il y a un flic un peu plus gentil qui va t'amener fumer une clope dans la cour que l'interrogatoire n'est pas commencé. Ou c'est pas parce qu'il y a un policier qui t'amène en salle d'interrogatoire et qui te pose des questions dans l'ascenseur que l'interrogatoire n'est pas commencé. Dès que t'as un pied dans le commissariat, tu as ouais, tout à y gagner, à te taire.
Ouais, l'interrogatoire commence bien avant l'interrogatoire en lui-même, en fait.
Oui,
comme tu disais, c'est
fait,
aussi ouais, avant, c'est aussi après. C'est ces petits moments de transition qui semblent anodins, mais qui auront aussi de l'importance soit pour te connaître, mais en plus, il faut une fulgurance, moi, qui me semble, hypothétique, pour arriver à comprendre un individu en deux, trois questions.
Après sûrement que ces personnes-là, les policiers et les policières, sont truffés de préjugés qui peuvent se tromper en analysant certains gestes, etc. Mais encore une fois, ne nous sentons pas plus intelligents que nous sommes. Et partons du pire. Et on sera toujours mieux préparé à partir du pire. En se disant qu'ils ont beaucoup d'informations dans leur dossier, même s'ils ne vont pas tout te dire. Partons du principe qu'ils sont très intelligents et qu'ils vont analyser beaucoup de choses. Et comme ça, on sera mieux préparé pour notre défense et notre défense collective.
C'est vrai que pour faire tomber un peu nos défenses, il y a ce fameux cliché du grand guignol, du bad cop, good cop, qui a été très exploité par la culture populaire. Alors le gentil flic, c'est ce que tu disais, il va être sur un terrain plus compréhensif, faussement compréhensif. Et puis le mauvais flic, ce sera évidemment pas, en tout cas plus des grosses tartes dans ta gueule, c'est plus simplement le langage corporel.
Voilà, ou ça peut être le fait que... la personne qui joue le mauvais flic ne parle pas, ou te regarde mal, ou est assis d'une façon un peu, agressive. Ça peut être beaucoup de phénomènes.
Donc vraiment, le but, c'est d'arriver à te cerner et de voir ce qui va te faire craquer petit à petit. Et il y a, dans le documentaire, on parle de l'effet tunnel.
Tout à fait. Alors ça, c'est un grand principe policier. L'effet tunnel, c'est le fait que la police, bien souvent, dans pas mal de dossiers, pense connaître le fin mot de l'histoire. Du coup, elle va pas voir, elle va pas imaginer d'autres solutions pour résoudre l'affaire. Il y a une vitrine de banque qui a été cassée. Il y a eu une manif. Ils ont une personne qui a priori était dans la manifestation. Pour la police, c'est toi qui a cassé la vitrine et il n'y a pas d'autre solution. Donc ils vont se concentrer sur cette hypothèse en laissant toutes les hypothèses de côté.
Et on parlait de culture populaire et de garde à vue. Il y a pris un extrait de garde à vue, justement, le film de Claude Miller. Je te propose de l'écouter, puisque malgré tout, il y a beaucoup de mise en scène, je trouve, dans la justice, la police. Il y a un côté très théâtral, c'est très codifié, tout le monde a un bon rôle à jouer. Mais quand c'est du cinéma, ça expose véritablement le côté artificiel des situations. Donc je te propose de l'écouter et tu me dis ce que t'en penses juste après.
Allons-y.
Vous voulez qu'on appelle un docteur ?
Non, non, Maître Martineau est assez grand pour savoir s'il a besoin d'un docteur ou non.
C'est surtout un radiologue qu'il me faudrait. Je suis sûr que j'ai la cloison pétée. Donnez-moi ça, vous, là, je vais me débrouiller. Bon, ben, vous pouvez pas me foutre la paix une seconde, non ? Là, vous êtes là, autour de moi, merde ! Je viens de dire que je pouvais pas respirer ! Merde !
Oui, bon, allez, il a raison, allez, dégagez, allez. Merci. Et toi aussi, Belmont, hein ?
Quoi, moi aussi ?
Tu trouves pas que tu nous as emmerdés comme ça, non ?
Mais qu'est-ce qu'il y a ? Moi, cette bande de foutus, ils sont pas beaux. Mais le plus beau, c'est quand même toi, hein. Parce que s'il avait craqué ton grand blessé, là, tu remontais, tu trouvais les aveux signés. Puis ça arrangeait tout le monde, ça, non ?
Oui, mais voilà, il a pas craqué.
Dommage. Je n'ai plus qu'à espérer que je sois coupable maintenant. Parce que si j'avais tué les gamines ou dérouillé le sadique, ça pouvait s'arranger. Mais si j'ai tué personne, les sadiques changent de camp.
Bon, d'accord.
Vilain temps, messieurs.
Bon, écoutez, Martineau, qu'est-ce que vous voulez ? Des excuses ? Bon, eh ben, je vais vous les faire. Et je les approuve officiellement, les méthodes de M. Belmont. Voilà, ça vous va comme ça ?
Rien du tout. Où est-ce qu'il a foutu sa liste des avocats ?
Pourquoi, vous avez l'intention de porter plainte ?
Mais comment ? Coup et blessure devant témoin.
Quel témoin ? Pour une petite coupure au front ?
Je crois que j'aime encore mieux Belmont.
Comment ?
Je dis, j'aime encore mieux Belmont. Il y a deux catégories de flics. Les spontanés et les tordus.
Vous faites partie des tordus.
Ouais, voilà, donc c'est vraiment le bon flic, méchant flic, mais ça raconte beaucoup de choses autour de l'aveu. La police a un dossier, malgré tout, qu'il faut remplir, qui va poursuivre après sa vie auprès de la justice, mais il faut absolument remplir le dossier.
Et le premier objectif d'un interrogatoire, c'est d'obtenir tes aveux, parce que c'est le plus simple pour la police de classer l'affaire, d'envoyer l'affaire devant la justice. Donc c'est le fin mot de l'histoire, c'est d'avoir tes aveux et donc que tu parles. Voilà.
Et les aveux devant un tribunal est plus lourd en conséquence que le déni ?
Tout à fait, ouais. Oui. On pourra jamais te reprocher, et c'est codifié dans toutes les lois et françaises et internationales, on pourra jamais te reprocher de ne pas avoir parlé. Un aveu, ça peut t'enfoncer. Tu peux difficilement te rétracter après, et tu pourras difficilement fabriquer ta défense devant un tribunal alors que il y a cet aveu. Alors que si tu n'as rien dit, là, t'auras beaucoup plus de marge de manœuvre pour fabriquer ta défense devant le tribunal qu'un aveu et que des mensonges. Voilà. Si tu penses que tu peux être plus malin que la machine, raconter une histoire, etc. Et tu te dis que tu peux t'en sortir comme ça, ça peut être dangereux, parce que tu peux te perdre dans tes mensonges. Encore une fois, on ne sait pas ce que c'est la police, donc ça se trouve ils savent que tu racontes un mensonge, et donc ils vont te laisser continuer et puis t'engrainer dans ce mensonge pour que tu racontes un maximum de mensonges, pour que tu te retrouves devant le juge en ayant fait une fausse déposition, ce qui peut te mettre un délit en plus. Voilà. Donc encore une fois, la meilleure méthode, c'est de ne pas parler et d'essayer de monter sa défense de manière collective dans un prochain temps.
C'est vrai que tout à l'heure, on parlait du sentiment d'isolement, et que l'une des forces qui peut être en toi, en ces moments difficiles, c'est d'imaginer le collectif.
Voilà, oui, ouais. Parce que, alors nous, on, c'est vrai que le documentaire et nous, Secours Rouge, on prend plus ce biais-là de la répression du mouvement révolutionnaire, donc la répression étatique face à la lutte, face aux actions. Et donc, si tu te retrouves en garde à vue ou dans un interrogatoire alors que tu as fait une action militante après une manif, etc., je pense que ça peut être une grande force de se mentaliser que tu n'es pas seul face à la police, que c'est tout ton collectif ou tout ton syndicat ou tout ton groupe qui est en face de la police et qui est à tes côtés. Voilà, et je pense que ça peut aider aussi de se mentaliser ses copains, ses copines, ses camarades assis à côté de nous face à la police, et surtout de se dire, c'est pas toi individuellement qui est interrogé, c'est pas toi individuellement qui est mis en cause, mais c'est le collectif. Voilà, pour se sentir un peu plus fort et pour se sentir moins isolé, parce que la police fera tout pour t'isoler. Ça peut aussi passer par des mensonges de la police en disant le camarade ou la camarade qui a été interpellé avec toi a dit ça. Il faut
semer la confusion.
Voilà. Comme ta grand-mère disait, il faut jamais croire un policier.
Dans les techniques d'influence, on a la proxémique, qui est l'intelligence de la distance entre deux personnes, avec les zones, les bulles de distance, la bulle publique, la bulle sociale, la bulle personnelle et intime.
Tout à fait, ouais. Et pareil, il faut se mentaliser ça, mais dans la vie de tous les jours, on a des interactions sociales et la distance que l'on met entre chaque personne, voilà, va influencer ces rapports sociaux. Donc dans une discussion un peu normale, on est éloigné d'1 mètre, 1 mètre 50 de la personne, et en dessous d'un mètre, voilà, ça devient des discussions interpersonnelles ou des discussions intimes. Et donc la police va pouvoir utiliser cette méthode-là pour soit se rapprocher, soit se mettre très à distance à un moment donné pour t'isoler ou te faire sentir seul, mais elle va pouvoir aussi s'approcher, voire s'approcher beaucoup et mettre sa tête vraiment en face de toi pour t'intimider.
Ouais, rentrer dans la bulle de distance intime.
Tout à fait, ouais.
Et je l'ai ramené, c'est ce que tu disais, sur quelque chose de courant, en fait, de la vie de tous les jours. Le respect des fameuses bulles. Moi, je l'ai ramené aussi à la façon de se saluer, à la façon, voilà, de se toucher. C'est un marqueur de pression aussi, d'oppression, un marqueur hiérarchique.
Tout à fait. Et encore une fois, là-dessus, on n'est pas tous et toutes égaux et égales sur ces bulles de protection. Voilà, je sais qu'il y a des personnes qui tapent la bise assez facilement. Bah, il y a des personnes qui sont un peu mal à l'aise avec ce contact physique un peu rapide, etc. Et voilà, la police pourrait utiliser ce genre d'indication et puis voir si t'es un peu mal à l'aise avec le policier à 1 mètre de toi. Bah, ils vont peut-être se rapprocher à 50 cm, voire un peu plus près, pour te mettre vraiment la pression, quoi.
Il y a aussi l'effet de récence avec l'impact des mots qui vont t'amener, à force de répétition de l'affirmative par exemple, à continuer sur ce même mode et à dire oui même si tu penses non.
Voilà, ouais, tout à fait, ouais. À essayer de poser des questions auxquelles il faut répondre par oui ou par non, ou par mettre le mot insistant à la fin de la phrase ou au début parce qu'en cas de fatigue, en cas de stress, ton cerveau n'analyse pas toute la phrase, mais voilà, en insistant sur le mot de la fin ou en mettant un mot particulier à la fin de la phrase, voilà, ça ton cerveau va pouvoir se focaliser dessus et tu vas vouloir répondre alors qu'il ne faut pas.
C'est totalement épuisant, enfin, d'être hyper attentif aux moindres détails, d'être concentré.
Tout à fait, et c'est pour ça qu'on propose de s'y intéresser, parce que le moindre interrogatoire, même quand on se dit que c'est un interrogatoire un peu pour une affaire banale ou que c'est pour rien, nous on pense que voilà, chaque interrogatoire est un exercice auquel il faut être préparé, entraîné, et que c'est un exercice qui peut te demander beaucoup d'efforts psychologiques, parfois des efforts physiques. Donc il faut s'y préparer, il faut s'y préparer aussi collectivement. C'est pas parce que une personne de ton groupe ou de ton collectif est en interrogatoire que le reste du collectif est passif, hein. On peut accompagner la personne au commissariat, on peut l'attendre devant, etc. Il y a différentes méthodes pour supporter la personne qui fait face à cet exercice qui n'est pas toujours facile.
Toujours sur le lien entre la vente et le fait de parler, est-ce que tu pourrais un petit peu détailler ? Parce que c'est vraiment quelque chose, moi, qui me surprend, qui me stupéfait, me désespère, puis que ce soit les mêmes méthodes utilisées, en fait.
Alors, il faudrait demander à ça à des commerciaux, hein, qui doivent bien connaître le sujet. Mais je sais que voilà, en utilisant certains vocabulaires parfois très très, très positif, parfois très négatif aussi pour parfois te faire peur et puis te vendre une porte blindée ou un système d'alarme pour ton appartement. Voilà, il existe plein de méthodes dans le marketing pour te faire acheter. Voilà, il joue beaucoup sur les sensations, hein, sur te faire sentir bien ou te faire sentir intelligent, comme ça tu prendras cette marque ou au contraire te faire peur pour te faire acheter un tas de trucs. Je pense que ça. C'est un peu dans l'air du temps en ce moment, quoi.
C'est les mécanismes d'acceptation inconscient. Est-ce que alors on n'est évidemment pas proche de l'hypnose, mais est-ce que c'est ce qui amène à faire des aveux alors qu'on est non coupable?
À ce qui paraît, c'est cette dynamique qui peut faire penser à des personnes qui n'ont pas commis l'acte, qui l'ont peut-être fait alors qu'ils ne se souviennent pas, etc. Et on a vu, alors le documentaire cite, je crois,
ouais, l'évoque, ouais,
35% des cas aux États-Unis, des cas de condamnés qui ont été innocentés des années après grâce à l'ADN, 35% des cas pensait vraiment que c'était elle-même qui avait fait l'acte en question. Donc cette force de suggestion peut te faire penser même que tu as fait l'acte et que tu t'en souviens pas ou que c'est un peu flou et que voilà.
En plus, tu penses mettre fin à quelque chose, mais c'est le début de quelque chose parce qu'après il y a tout le versant judiciaire qui arrive.
Il y a la machine judiciaire qui n'est pas route, voilà, et ça vaudrait aussi un autre documentaire sur voilà pour décortiquer un peu comme tu disais le show que c'est une cour, voilà, le procureur qui fait son show, le juge qui est dans son rôle aussi, et voilà, c'est aussi une machine à broyer auquel faut s'y préparer et s'y préparer collectivement.
Je te propose une petite respiration, une Chumba Wumba.
Super.
Et un titre autour des cigarettes. Fumais-tu, mais ben, ça n'empêche pas les gens de fumer.
stand by itself. Every fire needs a little bit of help. Nothing ever burns down by itself. Every fire needs a little bit of help.
Give the Anarchist Cigarette. Nico, tu voulais nous parler d'un bouquin ?
Oui, tout à fait, parce que c'est l'occasion. Et on a vu, en préparant la soirée de vendredi, qu'un collectif suisse a sorti un livre « Comment la police interroge et comment s'en défendre ». Alors, on était vachement intéressés par ce bouquin. Voilà, on l'a lu parce que la version est disponible en PDF sur le site des éditions Projet Évasion. Et je vous conseille vraiment cette lecture. Et puis on a pris contact avec ce collectif pour en commander. Donc il y aura des bouquins dispo
à l'occasion de la projection.
Voilà, à l'occasion de voilà. Et on sait que la bibliothèque anarcha féministe, qui fait partie du Chat Noir, en auront aussi à disposition. Et si je peux te lire les premières phrases de l'introduction, je pense qu'il il résume bien le bouquin. Notre ignorance fait leur force. Cette phrase résume parfaitement ce sur quoi se base un interrogatoire de police, sur notre ignorance. Ignorance sur le sens du travail de la police, ignorance sur les techniques de manipulation utilisées, ignorance sur le cadre juridique et enfin ignorance sur nos moyens de s'en défendre. Un interrogatoire n'est pas un échange harmonieux entre deux individus se plaçant dans un rapport d'égalité, c'est un conflit. Voilà. Et donc, le bouquin, voilà, pas comme le documentaire, mais avec un bouquin, ça creuse un peu plus loin la question des différentes techniques utilisées, du rapport qu'on peut avoir avec la police et avec des personnes qui nous interrogent, etc., pour en finir, enfin, pour conclure sur la même chose, qui on a tout à y gagner de se taire.
Et le documentaire a été fait par la section belge de Secours Rouge.
Exactement, ouais, avec en partenariat avec un collectif d'artistes, parce que voilà, le film joue des petites scénettes pour qu'on comprenne bien
des mises en situation.
Voilà, des mises en situation. Et donc c'est la section belge du Secours Rouge qui a réalisé ce film.
Et pour la présentation, donc tu seras présent avec un ou une camarade ?
Tout à fait, on sera plusieurs à faire la présentation, du coup hébergé gentiment par le Chat Noir, qui est un local militant et révolutionnaire tenu par plusieurs collectifs et groupes. Et voilà, on présentera un petit peu ce que c'est le Secours Rouge Toulouse, et ce qu'on a voulu faire de cette soirée. Et puis on diffusera le documentaire pour en finir par un petit débat où voilà, on invitera les gens à nous raconter leur propre expérience d'interrogatoire, parce que la connaissance peut être aussi faite comme ça, à travers des expériences perso et comment on s'est préservé de cette machine policière.
Et si tu avais eu connaissance de ces techniques, est-ce que ça aurait pu être utile dans le passé ?
Tout à fait, ouais, tout à fait. Et quelles ont été les techniques qu'on a vues dans le documentaire ou qui ont été utilisé sur soi, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire ou par exemple des expériences de dire oui, j'ai parlé à la police, parce qu'on est des êtres humains et on n'est pas là non plus pour être encore une fois, on fait pas de la morale et voilà ce que ça a donné de parler à la police, et dans la plupart des cas c'est pas c'est forcément pas une bonne idée.
Donc ce retour sur expérience est important.
Tout à fait, ouais. Et puis une petite discussion aussi collective afin de mieux se protéger, parce qu'encore une fois, sans être dramatisant, voilà, on vit une période de forte répression, hein. On peut citer la loi travail, le mouvement gilet jaune, mais aussi les dernières dissolutions de collectifs, qui a commencé par des collectifs antiracistes, et puis de soutien à la Palestine, et puis des collectifs antifascistes. Donc on vit une période de forte répression, et il faut absolument qu'on s'y prépare collectivement.
Rester vigilante, et ce n'est que la rentrée.
Tout à fait.
Tu veux rajouter un dernier mot à propos du collectif ou...
Non, bah on vous invite tous au Chat Noir vendredi à partir de 19h, et je pense que ça sera une bonne soirée.
Super, bah écoute, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à toi.
À très bientôt, et puis bonne journée.
À toi aussi.
Salut. Ciao, bye bye.
Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporté sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre seule.